Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Je reviens vite fait sur l'hypersensibilité, ouais. Où je me cache pas derrière ça, en me disant je suis triste, je suis pas bien, je suis hypersensible. Je l'accepte. Quand je vais me mettre à pleurer, quand je vais être envahi d'une émotion, quand je vais voir un truc qui va pas me plaire, je vais pas le skip. Alors je vais reprendre un terme que tu as utilisé sur un autre podcast, mais je me laisse pénétrer par l'émotion. Ouais. Et ça m'a toujours fait rire, cette phrase.
C'est pas de moi, c'est Angelo Foley qui en a parlé dans l'histoire de mec, enfin dans le Boys Club à l'époque.
C'est le premier que j'ai écouté.
Voilà, ouais. Où on parlait de. En fait, lui disait c'est important pour les hommes de se laisser pénétrer. Car alors, dans tous les sens du terme, parce qu'il dit même en termes de prostate, c'est pas mal, mais aussi et avant tout par les émotions. Et par tout ce qui peut venir venir à vous, quoi, d'une manière générale. L'amour aussi, enfin, tu vois, t'es obligé de tout. Une fois que tu te laisses pénétrer, partout, quoi.
C'est ça.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. Deux mercredis par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question toute simple mais pourtant tellement compliquée : c'est quoi pour toi être un homme ? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Merci beaucoup, Karl, de venir parler à mon micro.
Ben merci à toi de me recevoir.
J'ai l'impression qu'on a plein de trucs à se dire, toi et moi.
Ouais, moi j'ai plein...
Surtout toi.
Oui, j'ai plein de choses à dire sur les derniers temps de ma vie. Là, je redécouvre des choses comme l'hypersensibilité, la masculinité... Plein de choses qui sont restées un peu ancrées en moi pendant pas mal d'années. Et du coup, j'ai fait un petit reboot sur ma vie.
Ouais. T'as 36 ans aujourd'hui.
J'ai 36 ans, ouais.
Alors, tu m'as envoyé un mail. Tu m'as dit que t'étais aide-soignant haltérophile.
Alors, je suis aide-soignant de base et haltérophile quand j'ai le temps.
Pour le fun.
Pour le fun. Bah, après, voilà, c'était beaucoup. J'ai fait beaucoup de sport. Je me suis arrêté longtemps. J'ai eu des soucis de santé et en 2017-2018, après 2-3 ans après la naissance de mon fils, j'ai repris. Parce que j'avais une image de moi qui était plutôt... je me trouvais dégueulasse, en fait, clairement.
À ce point.
Ah ouais, je me rappelle... en fait, le déclic, ça a été... je travaillais en clinique de rééducation, donc tout le monde est très sportif, kiné, tout ça... Petit côté complexé et j'ai jamais vraiment assumé le fait d'être un peu rond. Alors tout le monde va me dire mais non Karl t'es pas rond et tout, mais ma vision de la chose, je vois pas pareil. Et un jour je monte les escaliers, on était au 3e étage Et je commence à transpirer parce qu'il faisait très chaud dans les résidences, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Et je sens ce léger filet de sueur qui dégouline le long de mon dos et qui finit en bas. Et j'ai fait non, ça je peux pas. Je peux plus. Je peux plus parce que je me sentais essoufflé alors que c'était 3 étages. Alors qu'il y avait des gens qui étaient en rééduque, qui étaient moins essoufflés que ça, alors qu'ils avaient eu des gros...
Ah, je me rends moins potentiellement,
ouais, voilà, ou les deux jambes en moins, ils arrivent à monter l'escalier. Enfin, ouais. Mais du coup, j'ai fait là, c'est stop. Et puis, j'ai entrepris de faire du sport. Beaucoup, beaucoup de sport. Mmh. Et un régime très, 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 très draconien.
T'as perdu combien de kilos?
Je suis passé de 105, 104 à 94 en 7 semaines.
Ah ouais,
c'est une
hardcore,
c'est un,
quand même.
Ouais, c'est un programme qui existe sur plusieurs villes, qui s'appelle la Training Academy. Donc je l'ai fait. Souvent j'en parle parce qu'en fait ça a été très bénéfique pour moi, mais ça a été dangereux parce que
oui,
j'ai perdu
beaucoup de poids en très peu de temps.
Et on ne mange pas beaucoup. Donc ça a marché, trop bien marché, mais je me suis jamais arrêté. Et je me suis un peu planqué là-dedans.
On va en parler.
Ouais, voilà.
Tu t'es un peu planqué là-dedans parce que c'est plus simple d'aller soulever de la fonte, j'imagine, que de gérer ses émotions. En tout cas, peut-être quand on est un mec, quoi.
C'est ça.
Et quand on est un mec de 36 ans, t'es franco-tahitien.
Alors,
mon
papa est de. Alors, franco-tahitien, c'est.
C'est toi qui l'as mis, hein. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, tu vois.
Bah, c'était plus impactant sur le message de dire je suis franco et ma mère vient du Nil. Mais,
t'es métisse. C'est
voilà.
Ça.
Ma maman vient de Tahiti, mon père est de la Dordogne.
Ok. Donc, vraiment grand écart.
Ouais, c'est ça. Et j'ai deux frères, ils sont comme moi. Les mêmes origines.
Les gens ne voient pas, mais t'es un gros balèze.
Non.
T'es. Si,
non.
Moi je te le dis, tu peux dire ce que tu veux, mais moi je te le dis,
ouais, okay.
T'es tatoué, t'es un mec quoi, t'as coché pas mal de cases de la virilité quoi.
J'ai l'archétype du grand chevelu barbu tatoué, un peu viking.
Puis là en plus t'as mis une chemise de...
Non c'est pas une robe.
Pardon, t'as mis une chemise de bûcheron là,
voilà.
Le mec il a tout.
Donc voilà, c'est le bûcheron canadien qui vient, qui est originaire du Nil, voilà, qui n'aime pas le soleil, qui préfère le froid. Bon. Mais ouais, c'est un peu l'image que je donne. Mais moi, je vois pas ça.
Toi, tu vois quoi, là?
Moi, je vois un garçon. Quand je me regarde, je me sens triste sur l'aspect au niveau du visage. J'entretiens rien du tout. Mes cheveux, là, il y a que quelques mois que j'entretiens ça. Hein, sinon, c'est n'importe quoi. Je les ai toujours attachés.
Pourquoi tu les entretenais pas? Et qu'est-ce qui t'a incité à changer?
Alors ça a commencé ces derniers mois. Oh là, ça va être instant.
Ah, on y va.
La méchette.
On est parti.
Une séparation. Une personne avec qui j'étais pendant plusieurs années. Et j'ai pas su prendre soin d'elle. Je lui ai fait du mal. Alors je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas envie. Mais du coup,
tu lui as fait du mal physiquement?
Non, non.
Ok. C'est ouais. Juste.
Pas cool. Non, pas cool du tout.
Tu lui as fait du mal émotionnellement, tu veux dire?
Voilà. Ouais, j'ai un peu pris sa confiance et un peu brisé sa confiance, son respect, et voilà, alors qu'elle était là pour moi. Mais de tout ça, il y a eu des bonnes et des mauvaises choses, comme dans toute relation, et je regrette pas. En fait, je regrette pas que ça soit terminé. Dans le sens où, pendant plusieurs années, je me suis un peu oublié, un peu zappé, un peu. C'était l'autre avant moi. Mon besoin, c'était assouvir le besoin de l'autre avant moi. C'était plutôt. Je trouvais ça agréable, mais en soi, ce que j'attendais, c'est. Et moi, à ce moment-là, est-ce qu'on prend soin de moi, là?
Tu veux dire que tu faisais tout ça en attendant quelque chose en retour? C'est ça?
Je m'en rendais pas compte, mais en y réfléchissant sur plusieurs temps, là, ouais. Ouais, j'attendais que. Bah, que ça soit donnant-donnant, en fait, parce que. Moi,
alors que l'autre avait potentiellement rien demandé.
Ouais, voilà. J'ai appris il y a pas longtemps qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes façons d'aimer, et l'amour n'est pas pareil. Moi, mon amour en soi, c'est donner beaucoup aux autres, mais c'est néfaste dans le sens où je ne me donne rien à moi. Et donc, suite à cette fin de relation, ne pouvant pas broyer du noir trop longtemps, sachant que j'ai un petit garçon de 8 ans, il fallait que je remonte la pente. Et puis, quand il y a ton fils qui vient te voir, et il te met la main sur l'épaule, il te dit « Allez, papa, lève la tête, ça va aller, avance. »
Ton fils de 8 ans, t'as dit ça ?
Toi, t'es là, t'es en voiture, t'as qu'une seule chose à faire, c'est tu pleures, quoi. Et à ce moment-là, ouais, je fais « Ok. » Bon, bah, je vais essayer de faire en sorte de... maintenant, je pense un peu plus à moi, dans le sens où je fais ce que j'ai envie, moi. J'essaie de faire le point avec moi, savoir si j'en ai envie, si ça va pas me perturber sur le stress, sur... Je suis une boule de ce qui est pas bien. En gros, si je fais quelque chose, mais je sais que ça va être mon envie qui va l'avoir. Mais derrière, j'ai pas checké avec mon corps si si je peux l'associer, si je peux l'avoir. Eh ben, je vais pas être bien. Je vais avoir l'impression de pas avoir accompli la chose ou. Et
c'est trop bien.
Et donc du coup, j'en ai eu des mal de tête carabinés sur ces derniers mois à écouter mon corps et mon cerveau. Dit mais non, attends. Fais un check avec toi-même et puis après tu vois. Et donc après cette relation-là, j'ai découvert que, alors avec ma psychologue, je lui ai parlé de l'hypersensibilité, elle m'a dit clairement, je pense que vous l'êtes. Après, c'est très vaste hein, l'hypersensibilité, j'ai pas la définition type. Après, je trouve qu'on a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça. Dans le sens où je pleure, je suis émotif, je suis hypersensible. Non, c'est tout un être. On voit pas le mec. Il y a des gens, ils vont voir des couleurs. Nous, on va voir des choses agressives. Là, tout à l'heure, j'ai pris le métro. C'était waouh.
Oui.
C'était les bruits, les machins, les gens.
Tu vis à Rennes.
Ouais.
Tu viens à Paris pour me voir à tout. Je te remercie pour ça, mais c'est vrai que je sais d'expérience parce que je l'ai vécu moi quand je vivais à Lille que ça peut être. Tu peux prendre la vague de gens et la vague de monde et la vague de tension dans la gueule quand tu rentres dans le métro parisien assez fort.
Il y a un côté très émotionnel où en fait on voit les gens tendus, stressés. Je me suis jamais fait autant pousser de ma vie sur 5 mètres. Hein. Ouais. Et puis il n'y avait pas que des hommes et des femmes, il y avait des vieilles dames, il y avait monsieur.
Ah oui. Les vieux, c'est les pires. Franchement, dans les métros parisiens, les vieux, c'est vraiment les pires. Ils n'ont plus rien à foutre. Ils sont arrivés à un point où ils n'ont plus rien à perdre. Tu vois, tu sens vraiment.
Et pourtant, je côtoie des vieilles personnes tous les jours.
On va en parler. Ouais. T'es soignant dans un EHPAD.
Je suis soignant. Hein.
Dans un EHPAD.
Ça fait 10 ans que je fais ce travail-là. Je reviens vite fait sur l'hypersensibilité comme là tout à l'heure je voulais préciser que je me cache pas derrière ça en disant je suis triste, je suis pas bien, je suis hypersensible, je l'accepte. Quand je vais me mettre à pleurer, quand je vais être envahi d'une émotion, quand je vais voir un truc qui va pas me plaire, je vais pas le skip, alors, je vais reprendre un terme que tu as utilisé sur un autre podcast. Okay. Je me laisse pénétrer par l'émotion. Ouais. Et ça m'a toujours fait rire, cette phrase.
C'est pas de moi, c'est Angelo Foley qui en a parlé dans Histoire de mec, enfin dans le Boys Club à l'époque.
C'est le premier que j'ai écouté.
Voilà, où on parlait de. En fait, lui disait c'est important pour les hommes de se laisser pénétrer.
Car
alors, dans tous les sens du terme, parce qu'il dit même en termes de prostate, c'est pas mal, mais aussi et avant tout par les émotions et par tout ce qui peut venir. Venir à vous, quoi, d'une manière générale. L'amour aussi, enfin, tu vois, t'es obligé de tout... Une fois que tu te laisses pénétrer partout, quoi.
C'est ça. Après, voilà, c'est... Je me cache pas derrière, je l'accepte. Je sais que ça fait partie de moi, je l'ai refoulé pendant des années.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avec l'archétype même de l'homme,
on va en parler.
Voilà.
Je voudrais te lancer justement sur le. On va parler de tout ce que tu m'as lancé là comme ça comme bribe. Mais justement, c'est quoi pour toi être un homme ? Et en fait, j'aimerais bien que tu me dises c'est quoi pour toi être un homme avant c'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui? Okay. Comment ça a évolué pour toi?
Ah, je l'attendais, cette question.
Ah bah oui, c'est... oui.
J'en ai rêvé de cette question. J'en ai cauchemardé de cette question.
T'en as cauchemardé à ce point?
J'étais là, non, n'y pense pas.
Avant... Elle te fait peur? Ou c'est une blague?
Non, c'est une blague, mais j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que j'y ai réfléchi et je me suis dit, j'avais pas envie de trop me prendre la tête et de me faire une définition tout de suite.
Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, quoi qu'il arrive. C'est ta réponse à toi qui est importante.
J'ai entendu plein de réponses.
Oui.
Avant ces derniers temps, pour moi, un mec, c'est... déjà, c'est une question de sexe.
Mm-hmm.
Homme-femme. Mais la définition de mec, c'est... pour moi, c'est... la personne qui assure le couple, qui fait en sorte de ramener de l'argent à la maison, de faire les courses, de donner un...
De faire les courses ou de payer les courses?
De payer les courses, c'est
pas pareil.
Quoique. De payer les courses, d'être là pour les bons moments avec les enfants, et pas ce côté où les petites tâches ménagères ou alors je prends un exemple typiquement ma vie. Moi j'ai toujours vu mes parents faire ça et au fur et à mesure des années j'ai vu que mon père s'est un peu lâché sur les tâches ménagères et puis il aimait bien prendre le lead sur un peu tout quoi. Mais pour moi voilà un mec c'était celui-là qui amenait sa femme à la maternité pour qu'elle accouche machin et tout. Et maintenant, c'est pas du tout ça pour moi. Alors un mec, ça peut être un mec très baraque, très viril, très ce que tu veux. Déjà la virilité, est-ce qu'il faut pas la redéfinir? Est-ce que c'est quelqu'un de très bestial ou c'est quelqu'un qui est très, je m'assume? C'est plus un côté je m'assume émotionnellement parlant, physiquement. Donc maintenant pour moi un mec c'est quelqu'un qui va écouter, qui va être là, qui va être présent, qui va pouvoir aider, qui va pouvoir avoir les épaules assez larges pour entendre homme comme femme, être là pour son enfant et pas dans le côté très autoritaire, je suis le père, tu fais ci, tu fais ça, c'est oui vas-y je t'écoute, je peux t'aider, si je peux t'aider je peux, peut-être qu'on peut trouver une solution, voilà.
T'as eu une éducation autoritaire de ton père? Tu la définirais comme ça?
Mon papa c'était un ancien militaire.
Ah oui.
Après, il a toujours été un peu maladroit dans, même encore maintenant, un peu maladroit sur ses façons de faire et de parler. Et j'ai toujours vu, alors mes parents se sont rencontrés quand mon père était en mission à Tahiti. Et au lieu de ramener un collier de fleurs, il a ramené ma mère. Du coup...
cette punchline.
Oui, c'est ça. Non, ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont mariés là-bas. Très, très... Mon frère aîné, voilà. Il n'a pas été autoritaire, mais si tu veux, c'était l'explication de « je fais une bêtise, c'est non, fais pas ça. » Point, à la ligne. Sûr. Pas de... Pourquoi je le fais pas?
Ouais.
Pourquoi si? Pourquoi ça? Et ça a été beaucoup ça. Après, j'ai reçu des roustes, hein, des bonnes tannées.
Et ça c'est autoritaire. Hein.
Ouais, voilà. Ma mère aussi. C'était plutôt à la dure où ma mère est une experte du lancer de savate.
Waouh.
Ouais. Ouais, puis ma savate à tête chercheuse, hein, donc s'il y a un angle dans le couloir, t'inquiète qu'elle va y arriver. Hein. Mais voilà,
j'ai mieux en rire. Hein.
Je préfère en rire parce que c'était pas constant. Mais c'était cette époque aussi, c'est des générations, moi j'ai 36 ans, on a à peu près le même âge, où c'était à la dure, enfin à la dure. Parce que maintenant, quand on met une fessée, on a toutes les associations qui arrivent derrière. Et,
ouais, mais.
Et avant.
Mais c'est normal aussi, tu vois. Il n'y a aucune raison de taper tes mômes qui sont, quoi qu'il arrive, déjà physiquement plus petits que toi, quoi,
ouais,
tu vois. Et en fait, tu vois, moi aussi, j'ai reçu des roustes, vraiment. Et je crois que l'un des trucs qui a été dur pour moi, c'est de me rendre compte que, ouais, mes parents étaient violents avec moi, quoi, tu vois. Et c'est pas grave, c'est ok, tu vois. Eux-mêmes ont été violentés par leurs propres parents, beaucoup plus que moi, tu vois, donc en vrai, ils ont fait mieux, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Bah après, c'est au fur et à mesure des générations, voilà, on veut pas reproduire les schémas. Moi, je sais que je me suis pris des petits coups de martinet.
Bah moi aussi, j'avais le martinet.
Voilà,
hein.
Le martinet.
Team martinet, hein.
On avait la
horrible,
la bonne idée de couper les fils.
Bah oui.
Et puis bah on est con parce qu'il y a le manche. Mais voilà, j'en rigole, mais sur le coup, j'en rigolais pas. Je leur en veux pas.
Tu t'en rends compte aujourd'hui que ça crée chez toi peut-être des blessures très profondes, quoi, tu vois,
dans, ah oui, clairement.
Dans l'image que t'as de toi, dans l'amour que t'as de toi, etc.
Sur l'image que j'ai de moi, il y a une image où j'ai pas confiance dans ce que... Tu vois, avant de venir ici, j'étais en train de me dire, est-ce que je vais réussir à venir jusque-là? Est-ce que je vais pouvoir parler? Est-ce que... Il y a toujours des est-ce que... Et pas de rassurance en disant... du coup, l'impression que mes parents étaient un peu durs avec moi, et du coup, je fais exactement la même chose avec moi-même. Mmh. Et des fois, je me stoppe et je me dis, mais stop, toi, t'es tout seul et t'es en train de te taper dessus. Donc
bravo, hein, c'est cool de t'en rendre compte, là.
Parce que je sais que ça va me faire du mal, et... Mmh. Et en fait, d'y penser et de me polluer l'esprit comme ça, ça va me faire être pas bien, stressé, anxieux, de mauvaise humeur, et puis ronchon. On a le droit d'être ronchon, mais ronchon tout le temps, non? Et la relation que j'avais avec mon père, c'était... quand j'étais petit, quand on était sur les motus à Tahiti, ma mère me racontait que à chaque fois qu'il allait faire de la plongée...
Attends, c'est quoi les motus, pardon?
C'est des petits îlots.
Okay.
Des petites îles à droite à gauche, okay, où il y a 2-3 palmiers, et souvent avec les potes de l'armée que mon père avait, ils y allaient en famille, et puis les hommes allaient pêcher, et les femmes faisaient à manger, voilà quoi.
Bien sûr.
Bien sûr, et un peu à l'ancienne, quoi.
Bah oui.
Voilà, et je ne voulais, à chaque fois que mon père partait plonger, je pétais des crises, comme si il allait jamais revenir. Mm. Et je posais la question à mes parents en disant, mais pourquoi ils ont... Alors, je sais pas s'ils ont cherché pourquoi je faisais ça. Ils m'ont pas donné plus de réponses. Mmh. Moi, je pense que inconsciemment, voir pour un enfant de 2-3 ans l'immensité de l'océan et voir son père partir, je pense que ça peut créer quand même un petit traumatisme. Mmh. Bon, maintenant, il peut aller faire de la plongée.
T'as accepté la mort de ton père?
Ouais, c'est ça. Après, voilà. Mais...
Ou le fait qu'ils ne reviennent plus.
C'est ça. Tu préviendras, c'est dur bien. Mais surtout qu'après ça, bah, j'ai fait des petits rapports en me disant, bah, est-ce que... En fait, c'était en... Les rapports, que les liens que je me suis fait, c'est en réfléchissant, en écoutant tes podcasts, ceux de toi, Mimi, en écoutant ou en lisant. Sur les phrases que mon père a pu me dire ou ma mère a pu me dire, du style « je me mets à pleurer parce que je me suis fait mal » ou « je suis pas bien » et cette phrase, je la répète souvent aux gens. Mmh. « La petite main derrière le fond, derrière la tête » et puis dire « allez, arrête de pleurer, ça va aller ». Mais en fait, c'est comme pour le « non, fais pas ça », mais je veux une suite. Mmh. Je suis un enfant, j'ai besoin de la suite, j'ai besoin de savoir... ben pourquoi ça va aller, comment ça va aller, et ça m'a beaucoup impacté. J'essaye avec mon fils, avec Robin, de pas faire la même chose. Quand je le vois pleurer, je lui dis écoute, tu pleures, lâche et on en parle. Et je alors que
tu te rends compte du progrès en une génération.
Ben il faut parce que...
Quand tu dis il le faut, non, je suis en train de te dire tu te rends compte du progrès que t'as pu faire, toi, que tu incarnes de ce fait là dans du saut en avant par rapport à ton fiston, quoi. C'est un beau cadeau que tu lui fais.
Bah c'est, j'essaie de lui donner le meilleur parce que j'ai pas... Je sais qu'il est comme moi et sa mère. Sa mère et moi, on est séparés depuis quelques années, mais on s'entend toujours bien pour lui et pour nous. Et sa mère est très... très, ben, elle est très dans l'empathie. Elle aime beaucoup aider. Et moi je lui léguais ma petite hypersensibilité, donc je lui dis tiens, cadeau, c'est à moi, donc si tu veux je vais essayer de t'apprendre comment le gérer. Et je veux pas qu'il le refoule, parce que le schéma que j'ai eu, c'était pleure pas, ça va aller, fais pas ça, ça va aller, bombe le torse, ça va aller. Ouais, les mêlées, ça va aller, ça règle rien, en fait. C'est mettre un problème dans un mouchoir, faire un nœud, un double nœud, remettre dans la poche, fermer la poche. C'est pas forcément la chose que je veux donner à mon fils, parce qu'on vit déjà dans un monde assez merdique, surtout actuellement, et si on peut leur donner, si je peux lui donner des armes pour affronter un peu plus la réalité, et son côté à lui, c'est une sorte de transmission d'héritage que je veux essayer de lui inculquer, quoi. Même si des fois, il y a des dérapés, il y a des gros mots qui m'échappent et il revient me prendre en disant « Non, papa, t'as dit un gros mot. Joue pas avec moi, là. »
Bah oui.
Mais il a raison, parce que en fait, il me reprend c'est le meilleur reflet qu'on peut avoir sur la vie de parent qu'on a. C'est comment voir notre enfant et comment lui nous ramène son image, quoi. Mais voilà. Un mec, c'est ça.
C'est ça, un mec.
C'est ça, un mec, voilà.
Incroyable, hein.
Ouais, ça fait beaucoup. Hein.
T'as conscience du chemin que t'as parcouru entre ta vision d'avant et ta vision d'aujourd'hui ?
Ouais, ça a été.
Comment t'en es venu là ?
Par
où t'es passé ?
Par où je suis passé ? Alors, c'était par le métro parisien, là-dessous. J'ai vu une vieille dame crier sur un vélo. J'étais waouh ! Et véridique. Hein.
Bah oui, normal. C'est la base. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est Paris, quoi.
Non mais pareil, c'est génial, hein. C'est chargé d'émotions et ça, voilà. Comment j'en suis venu là ? J'en suis venu, donc comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette séparation, faire un reboot sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux amener à ma propre vie, et en fait j'ai une question qui est ressortie souvent chez ma psy, c'est...
Comment t'en es venu déjà à aller en thérapie ?
Oh là !
Bah oui, parce que bon,
oui, parce que j'ai mis dans le... Oui, je te vois venir. Je suis venu en thérapie parce que il y a quelques temps de ça, donc ça fait presque 6 ans que je suis avec la même thérapeute. Ça a été compliqué d'en trouver une bien, parce que je pense que une thérapeute, c'est comme un coiffeur. Il faut trouver le bon qui te fait le bon truc. Et bon, moi je dis ça, mais je me suis pas coupé les cheveux depuis des années.
C'est marrant cette analogie.
Oui. Et comme tout, faut, quand tu cherches quelque chose pour toi, il faut trouver le bon. Et
ouais, je crois que c'est cool aussi de dire que si t'as une première expérience pas cool avec une thérapeute, une psy, parce qu'à un moment donné, tu sens que ça fit pas, c'est important de faire 2-3 séances. Et si tu sens que c'est pas cool, bon bah faut changer. En fait, c'est comme tout. En fait, faut pas forcément rester avec quelqu'un avec qui ça fit pas, en tout cas en termes de d'énergie, quoi.
Ouais. Moi, je sais que j'en ai eu plusieurs. Plusieurs, c'est 3-4, hein.
Ouais.
Et le côté où faut que je m'allonge. Et la question fatidique, c'est comment ça se passe avec vos parents ? Mais non, mais enfin, je viens de parler de moi. Et puis c'est l'archétype même, comme on voit dans les films, assez avec ses petites lunettes, son petit calepin, voilà, c'est très imagé. Hein, mais c'est histoire que tout le monde ait l'image du psy de base. Non, moi j'ai trouvé une psy qui...
Donc c'est une psychologue, parce que là c'était plutôt une psychanalyste, non ?
Ouais, voilà.
Je suis allé voir
un peu les deux, un peu ce que ça donnait.
C'est pas du tout le même, c'est pas le même travail, entre guillemets, quoi. La psychanalyse va rentrer plus profondément, effectivement, dans les parents, les machins, assez rapidement, là où la psychologue, a priori, où le psychologue va te faire travailler, va plus partir de tes émotions et de où tu es, peut-être revenir un peu plus tard, en arrière.
Sur le fait, à ce moment-là, je faisais beaucoup la fête. On connaît, enfin, je sais pas si les gens connaissent, mais Rennes est réputée pour ses soirées étudiantes plutôt très animées qui durent du jeudi jusqu'au dimanche matin. Moi, j'ai été abonné à ce fameux JVS.
Jeudi, vendredi, samedi.
Voilà. J'étais encore chez mes parents et ce besoin de peut-être évacuer, trouver cet échappatoire que de faire de la fête en disant allez, ça va se régler,
ça va aller,
resserre-moi un verre, ça va aller, allez, je m'en fous, on vit qu'une seule fois. Mais c'est triste à dire, mais c'était une addiction et un échappatoire à avoir. Suivi de ça, c'est que j'ai l'alcool mauvais. Ça c'est atypique, je pense, à tous les Tahitiens.
Ah ouais ?
Ouais, je crois qu'on a un gène un gène de gogol, en fait. C'est ça, c'est tu bois, tu peux te friter avec ton cousin et ton oncle, et le lendemain, prendre le petit-déj avec eux, quoi. Moi, j'aime pas ça. Enfin, je veux dire, moi, je me frite pas avec le mec, avec un mec que je connais et je vais prendre le petit. Enfin, je me sens bête, en fait, je me sens minable.
Ouais, après, peut-être que l'alcool te désinhibe et que t'as au fond de toi une prise de tête avec cette personne que t'oses pas régler sobre, quoi, tu vois. Et que c'est une façon comme une autre de faire en sorte de régler les trucs, quoi. Mais bon, ça les règle pas.
D'accord. Pas du tout. À ce moment-là, ouais, j'ai pas mal. Je suis pas mal sorti. J'ai beaucoup, beaucoup fait de conneries.
De conneries. Tu te battais?
Ouais.
Allez.
Voilà, j'ai tout. Tout
bagarre, là.
La bagarre. Et bonhomme, les bagarres.
Tu voulais faire du mal?
De ouf.
Ouais. J'avais tu voulais qu'on te fasse du mal?
C'est un peu. Le dernier podcast que t'as fait, c'était avec, je sais plus son nom, Ilias,
oui. Ah oui, qui raconte.
Ouais, alors quand il est parti sur ce sujet-là, j'ai fait, ouf, bah, je vais plus pouvoir rien dire, moi.
Il fait chier, à tout dire. Ah non, bah, si on avait arrêté de parler de la bagarre à partir du moment où il y a un mec qui avait parlé de la bagarre, on aurait pu parler de grand-chose dans l'histoire de mec.
Le sujet,
je peux y aller.
Bagarre, c'est fait. Non, ouais. En fait, vu ma carrure, je fais pas forcément gaffe à qui et au nombre de personnes à qui je vais parler. Donc je me lance dans le truc et puis on verra comment j'en sortirai.
C'est... Ah oui, donc c'était juste t'allais te battre, quoi.
Ouais. C'était c'est triste à dire, hein, mais j'avais besoin. Alors, ça fait partie d'un autre sujet aussi, de me faire mal pour savoir si j'existe ou pas.
Ouais.
Donc, il y a plein de choses qui se relient. Étant plus jeune, fait des scarifications. Parce que mon mal-être, c'était que j'arrive pas à m'exprimer, à extérioriser. Et pourquoi? Alors, j'ai lu des analyses sur ça, en disant que c'est pas forcément un appel à l'aide, c'est une extériorisation d'un pas bien ou et moi à ce moment-là j'étais pas bien donc au bout d'un moment j'avais plus trop de place sur les bras vu qu'après j'ai eu des tatouages et puis faisait chier de les abîmer quand même
donc t'as trouvé autre chose.
J'ai trouvé autre chose. Après je me suis toujours battu. J'ai grandi en quartier et c'était la loi du plus fort où si quelqu'un vient vers toi, alors mon père nous a toujours dit si vous vous battez, ne donnez jamais le premier coup, sinon vous en allez. Bien sûr, on n'a pas écouté. Hein? J'ai des frères qui sont aussi costauds que moi, voire plus grands que moi et plus costauds. Et on a toujours été de carrure à. Je sais pas si tu vois le film avec Ben Spencer.
Oula.
Et Terence Hill. C'est deux mecs qui faisaient des westerns
et qui mettent des baffes.
Voilà.
Ils mettent des baffes.
Voilà. Et souvent,
des vrais baffes.
Et souvent, ça se finissait que comme ça.
Pas un coup de poing, une baffe.
Non, on a une petite marque de fabrique, la baffe, c'est bien. C'est humiliant, c'est. Bref.
Une bonne baffe bien donnée, ça sonne bien. Ça te sonne la gueule. Hein.
Mais tu reçois une baffe d'une femme, tu te sens bête. Tu reçois une baffe d'un homme, tu te sens bête. De tout le monde. Un enfant, tu joues avec lui, tu files une claque pour rigoler, tu te sens bête parce que c'est... Donc voilà, j'ai...
T'as des grandes paluches, hein. On peut le dire, t'as des bonnes paluches là.
Ouais, c'est pour attraper les barres d'altéro.
on va y venir.
Et du coup, voilà, je me suis beaucoup battu et puis à chercher la petite bête quoi. Et puis que ce soit gens que je connais pas ou amis.
Tu te battais avec tes amis aussi.
Alors, j'ai eu beaucoup d'amis. Et j'ai pas su les garder.
Moi, si tu leur mettais des dérouillés,
je comprends.
Quand t'avais un verre dans le pif, tu m'étonnes.
Pas pourquoi. Il n'y avait que de l'amour derrière ça. Non, c'est.
T'as que de l'amour derrière une grosse torgnole.
C'est ça. T'as vu que ma main, mais derrière, t'as pas vu l'amour. Mais c'est surtout que ce côté enfant, en fait, ressortait quand j'étais en état d'ébriété. Que je voulais qu'on m'écoute, j'étais pas content. Le nombre de fois où j'ai fini en cellule de dégrisement parce que la police est venue. Et puis un coup de lacrymo, ça fait du mal, ça te calme. Hein. Et oui, voilà, je me suis beaucoup battu. J'ai j'ai ce passif qui est je veux me faire mal pour voir si si je suis bien réel, si j'existe, qui je suis, où je suis. Et après, quand t'as placé ça, t'as le fameux lendemain, les regrets, qu'est-ce qui s'est passé, le fameux tu te lèves le matin, t'as mal à la cheville, t'es en train de boiter, t'as un œil qui ressemble à rien, t'as mal, t'as des bosses partout, t'es en train de dire...
oui, parce que tu faisais pas que mettre des baffes, t'en prenais aussi, ouais, j'imagine.
Je me suis souvenu des plein de fois où ils étaient plusieurs et je me suis retrouvé à terre et ça m'arrêtait pas. Et ouais. Je me relevais. Tant que je pouvais me relever, rares sont les fois où je suis tombé dans les pommes. Il y a qu'une seule fois où ça m'a valu de tomber dans les pommes et finir à l'hôpital, c'est que je faisais une soirée et faut savoir que moi je suis abonné à la Rennes, c'est Pontchaillou, l'hôpital. Moi j'ai une carte de fidélité. Moi, à l'accueil, ils me connaissent. Voilà, c'est très humoristique, mais c'est con à dire, mais j'y suis allé souvent.
Mais tu dis ça en te marrant, mais déjà, c'est complètement con, hein, oui. Si je puis me permettre du mal. J'imagine les soignants, ils ont peut-être d'autres choses à foutre soigner des ozos qui se sont bourrés la gueule et qui veulent se faire du mal en plus, tu vois.
Et on rappelle qu'ils ont mon métier.
Oui.
Et je suis aide-soignant. Donc peut-être qu'il y a un lien et donc j'y suis allé souvent et
tu crois qu'il y a un lien entre le fait que tu veuilles aider les gens à se soigner et que toi-même
je sais pas.
T'attendais qu'une chose, c'est qu'on te soigne,
c'est ça, ou qu'on soigne mon petit cœur brisé ma petite âme abîmée. C'est surtout le de me rendre compte que je mets ma vie en danger, quoi.
C'est vachement plus simple de prendre soin des autres que de prendre soin de soi, quoi.
De ouf. Parce qu'on se dit, moi c'est ça, ma vie c'est ça, c'est je peux prendre soin des autres jusqu'à plus en pouvoir, jusqu'à me fatiguer. Typique, le moment du Covid, par exemple. Là où je travaillais, on a été tous bénévoles pour travailler avec des gens Covidés, et j'étais déçu de pas avoir été pris parce que je voulais mettre ma pierre à l'édifice et aider. Et en fait, il y avait besoin d'être partout. Et des fois, je cachais le fait d'être pas bien pour y aller. Alors, j'ai jamais eu le Covid. Hein. Mais d'être pas bien, fatigué, à bout. Et moi, ça a toujours été ça. Je tiens ça de mon père. Hein. Ce qui est ouf, c'est que mon père, il a la main sur le cœur. Il serait capable de se priver pour nous. Alors que il a une façon de voir les choses très militaire, très il faut faire ça. Après, avec l'âge, je trouve qu'il a beaucoup changé.
Mais justement, pour moi, c'est ça, d'être militaire, d'être dans l'armée, c'est d'être au service d'eux, tu vois.
Ouais.
J'ai interviewé un daron là qui s'appelle Nicolas qui raconte ça. Je sais pas si t'as écouté cet épisode.
Non, pas celui-là.
Lui, c'est un ancien militaire, donc je sais plus, c'est daron de granit ou un truc comme ça, tu vois, où il raconte comment il s'est adouci, tu vois, avec le temps, et il raconte vraiment que c'est au service d'eux, quoi, tu vois, jusqu'à prêt à mourir, tu vois. Ouais. Pour lui, prêt à mourir.
Pour le coup,
c'est le sacrifice ultime, quoi.
Tu vois, ouais. C'est un peu ça. Il a besoin de. T'as besoin de ci? Tu veux qu'on aille te faire tes courses? T'as besoin de ça? Non, stop. Mais ça devient étouffant. Alors, ma mère qui vit au quotidien avec elle, je pense que par moments, elle en a un peu marre. Elle voudrait juste vivre un peu sa life, quoi. Et moi, le temps qu'être soignant, j'ai toujours aimé avoir une. Alors, je suis arrivé il y a 10 ans en faisant ça. C'était très médical. Alors, c'était très protocole. Il fallait tenir ça. Et puis là, ça fait 10 ans, je suis en EHPAD. Je suis plus dans l'humanitude, dans le prendre soin et dans le bien-être. Parce que, en fait, ça me va mieux.
Tu te sens plus utile.
Ouais, je me sens plus utile. Et puis, je sais pas pourquoi. De me mettre à mal pour arriver dans un hosto et faire chier les soignants parce que, clairement, avoir des mecs bourrés, complètement pétés à gueuler dans la salle d'attente parce qu'ils en ont marre, alors qu'ils se sont mis dans cette situation tout seuls, quoi. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Parce que, alors, encore une histoire où j'ai été alcoolisé, j'ai eu un accident et, je suis tombé d'une très grande hauteur. parce que je me suis retrouvé à un endroit où il fallait pas. J'ai voulu couper pour rebroucher chemin pour rentrer chez moi. Je me suis retrouvé sur le toit de quelque chose et j'ai voulu descendre et Vladadam, Karl est tombé de son 100 kilos sur le côté gauche et je me suis brisé le coude et le genou. Donc j'étais incapable de me le relever. Et à partir de là, ça a été la descente aux enfers de opération, rééducation, réapprendre à marcher. Et c'est là que j'ai découvert les métiers de l'aide à la personne, kiné, médecin, tout ça. Ça a été là le déclic. Et j'avais envie d'être de l'autre côté de la barrière. J'ai eu des difficultés à reprendre des activités professionnelles parce que j'ai eu des complications avec mon genou, qui s'est recassé, il y a eu des infections, il fallait enlever les broches, il fallait les remettre, voilà, c'était là, le gros merdier, quoi. Et toujours de cette spirale de, je continue à sortir, à faire la fête,
malgré tout,
je continue à faire ça, à m'abîmer de plus en plus, quoi.
Ah, tu veux dire qu'en fait, tu continues à te battre? Avec un genou et un coude en moins.
Le coude allait mieux, mais le genou, j'essayais de le préserver.
Tu continues à te battre?
Alors inconsciemment, je le faisais moins, mais je savais que je pouvais partir à tout moment dans cette...
Quand est-ce que tu t'es arrêté?
Je me suis arrêté quand j'ai commencé à faire du sport intensément. Alors, l'addiction à l'alcool, derrière ça, il y avait une grande colère. En colère de pas avoir ce que je veux, en colère de pas m'exprimer, et en fait tout bêtement extérioriser mes sentiments qui sont justement la colère. Moi, je la laisse passer, je la retiens plus maintenant. Le fait de retenir ma colère, je réagis comme une cocotte minute. C'est qu'au bout d'un moment, sur un moment où je me détends, ces moments où je suis alcoolisé, ça explose quoi.
Et je crois que c'est important de dire qu'en fait la violence, c'est toujours de la colère qui est restreinte,
c'est ça,
qui est pas exprimée.
C'est ça.
Parce qu'en vrai, moi j'ai découvert un truc, c'est que souvent, on confond la colère avec la violence.
Oui.
On confond la colère avec hurler, on confond la colère avec le fait de gueuler, de taper dans des murs, etc. etc. Et surtout les mecs. Le nombre de mecs qui tapent dans des murs, qui tapent dans des portes vitrées, qui s'éclatent les poings, se flinguent les mains, bref. Et en vrai, tu peux exprimer une colère de façon très froide et juste dire à la personne, là tu vois, je suis en colère. Je suis en colère contre toi, je suis en colère parce que t'as fait ci, parce que t'as fait ça, et de parler comme ça, quoi.
Ouais.
C'est déjà trop cool.
Ça, je l'ai découvert il y a quelques temps, je t'ai dit, avec le sport, et c'est vrai que ma colère, je l'ai extériorisée en faisant ça. Donc on le mélange, et c'est là que je me dis, si j'avais pu avoir une personne, un lien, un soutien qui m'explique pourquoi ton sentiment te fait avoir une réaction violente, pourquoi ci, pourquoi ça... Peut-être que j'aurais pas cherché à me faire mal ou voilà. Et du coup, après ça, je me suis enfermé dans l'autre addiction, qu'est le sport, parce que...
L'haltérophilie, donc.
Alors, j'ai commencé par faire une perte de poids, découvrir les joies de la musculation, rééquilibrage alimentaire, programmation, prendre un coach. Et sur ça, j'avais un contrôle total des choses, donc une satisfaction. Mais le problème, c'est que je m'enfermais là-dedans. Donc, je me suis un peu perdu dedans, je me suis perdu au moment avec la mère de mon fils. J'ai fermé mon univers, qui était le mien, à cette personne-là, à Johanna. Ça va venir, je suis traversé d'une émotion.
C'est quoi l'émotion qui te traverse, là?
En fait... je me suis caché de ça, en fait.
Caché de quoi?
En fait, j'acceptais pas à ce moment-là que... En fait, il faut savoir que mon fils est né en 2015 et j'ai repris le sport en 2017. Et Johanna, qui est la mère de mon fils, est très... C'est une maman géniale. C'est... voilà, je suis pas objectif, mais c'est la meilleure des mamans que je peux avoir pour mon fils. Trop, des fois. Parfois, je te dis, t'es trop dessus. Et,
pas, il en verra bouler quand il sera temps.
Ah ouais, mais il le fait déjà. Hein. Et le truc, c'est que, à ce moment-là, je me suis enfermé dans le sport et elle était, je trouvais très sur notre fils. Et j'ai eu l'impression, en tant que... Alors, j'étais un père, mais je n'étais... j'avais l'impression de ne plus être un conjoint, un amant. Mmh. Voilà. J'avais eu l'impression... Enfin, mon sentiment était que je me sentais mis de côté.
Elle te délaissait.
C'est ça. Mmh. Alors que, certainement pas, parce que au lieu de... d'arriver à lui parler, de lui dire clairement les choses, j'ai préféré me dire, bon, ben, vas-y, ben, je me tourne.
Je vais aller pousser de la fonte.
C'est ça, je vais me tourner sur quelque chose où moi j'ai le contrôle et que je vais être bien, quoi. Mmh. Mais je me vois y aller 5 fois par semaine.
Qu'est-ce qui te rend triste, en fait, là, à ce moment-là? Pourquoi tu me dis que t'es traversé par les... C'est quoi l'émotion?
Bah, parce qu'en fait, l'émotion, c'est que... j'aurais pu faire différemment si j'avais eu le caractère de maintenant. Mmh. J'aurais pu dire, écoute, là, je me sens pas bien, il y a ça. Donc, j'ai fait le réflexe inverse, qui est, je me suis enfermé dans mon truc, et je lui ai fermé l'univers dans lequel où j'étais. Et puis, c'était trop, quoi. C'était clairement trop. Je calculais mes apports alimentaires, je voyais que ça. Et ça m'a été très bénéfique sur le côté très discipline que je peux me mettre. Mais en fin de compte, avec les années, je me dis, mais je me suis juste caché là-dedans, en fait. Et je faisais plus du sport pour me sentir bien, je faisais du sport parce qu'il fallait que j'aille. C'était ancré dans ma routine, il fallait que j'aille.
Ouais.
Après, je sais pas si toutes les personnes qui font du sport en salle ou autre... Ça enferme. Je trouve que c'est très dangereux de faire du sport dans le sens où on peut vite perdre la chose qui est. On y va. Du sport, c'est pour soi-même, c'est pour faire du bien-être, pas pour se faire du mal. Et j'y allais à. Ouais. Des fois, je savais pas quoi faire chez moi, j'y allais. Et là-bas, je me sentais bien. Je me sentais comme à la maison. Les coachs sont top, c'est des gens très, très humains aussi. Et donc, je me suis enfermé là-dedans. Et au fur et à mesure des années, j'ai changé de sport. Alors, il y a eu le Covid. Donc, avec la mère de mon fils, on s'est séparés. J'ai continué. J'ai fait ma vie de mon côté. Entre-temps, j'avais rencontré quelqu'un. Mais je
Comment t'as vécu cette séparation? Tu dis ça en passant, là, comme ça, comme si c'était une lettre à la poste.
Je l'ai vécu... J'avais pas pensé, ça. Hein.
C'est pas anodin.
Bah... J'ai eu peur au début. Je me suis dit...
C'est toi qui as décidé de te séparer?
Ouais.
Ok.
C'est moi qui ai décidé parce que je voyais qu'au fur et à mesure, on se prenait la tête, on n'était pas bien. Puis il y avait Robin entre nous et je voulais pas qu'il le voie. Et après, alors j'oublie un facteur essentiel là-dedans, c'est que à l'âge de 1 an, Robin, il a été diagnostiqué diabétique de type 1. Alors pour les gens qui savent pas, le diabète, il y a 2 types de diabète. Le diabète de type 1 et type 2. Souvent, le type 2, c'est allié à la mauvaise hygiène de vie, l'alimentation. Souvent, c'est ce que les vieilles personnes, ils ont. Robin, c'est la maladie auto-immune où, en gros, c'est son corps qui ne sécrète plus du tout d'insuline. Et donc, du coup, lui, il a 1 an. Et on découvre ça dans cette période où il grandit. On découvre les joies de la parentalité. Moi, j'attendais ce petit garçon depuis des années. Ma mère était assistante maternelle. J'ai toujours voulu avoir un enfant et je voulais avoir un petit garçon et je l'ai eu. Et de le voir finir à l'hôpital à 1 an, perfusé, le bras énorme à cause des perfusions, c'était violent. C'était violent parce que Johanna, qui est très phobique des hôpitaux, alors qu'elle a une mère aide-soignante, c'était la pire nuit, moment de ma vie. Où en fait, tu vois ton enfant qui... alors que je suis soignant, hein, à ce moment-là, je suis soignant, hein, qui est en train de vomir, qui est pas bien, qui respire fort, qui est... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, en tant que soignant, c'est ça aussi qui m'a impacté et percuté, c'est que j'ai appris les gestes d'urgence, je les connais, et là, j'étais incapable de savoir ce qu'il avait. Je me suis complètement senti démuni, et puis... on l'a emmené à l'hôpital et aux urgences. Et puis, bah là, ils ont fait batterie de test, tout ça. Et puis, en fait, ils ont juste fait une glycémie au doigt. Voilà. Et, votre fils est diabétique. Voilà, il y a un gros poids qui tombe. Je craque. Et puis, et je me dis, un diabète à un enfant d'1 an, ça pue du cul, quoi. ça pue du cul. Et alors, on imagine toujours le pire pour ses enfants. Enfin, pour moi, mon fils, j'ai pas envie qu'il ait des séquelles par rapport à ça. Mmh. Donc, le diabète...
T'as imaginé le pire, en tout cas.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu des gens en rééducation qui ont eu du diabète tôt et qui ont eu des complications, problèmes de rein, de vue, amputation d'une jambe et tout ça. Enfin, en fait, on va dire que j'étais dans un univers qui me disait, bah, ouais, il y a tout ça. Et là, d'un coup, sur un petit bonhomme d'un an, t'es là, oh, non, bah, je veux pas. Donc, du coup, je me suis rajouté une pression, sa mère aussi, et puis voilà, elle s'est enfermée là-dessus. J'ai essayé de reprendre un peu le lead aussi, de me dire, bon, bah, je suis là aussi, je peux t'aider. Et on avait une façon de voir l'éducation différente. Moi, j'avais la celle de mon père. C'est non, le non. Mais pourquoi non? Enfin, voilà, je m'en vois encore dire non à un enfant d'un an et demi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent un non? Enfin, après, il ne faut pas s'étonner que les gamins, ils répètent non quand ils ont deux ans. Et elle est très dans la discussion. Et par la suite, donc voilà, j'ai continué le sport. Donc l'haltérophilie est venue plus tard. Là, ça fait que deux ans que j'en fais. Mais entre-temps, voilà, j'ai fait muscu, cross-training. J'ai testé un peu le crossfit, mais ça m'allait pas. Ce côté trop militaire, justement, qui était trop ancré. Et j'ai trouvé un jour un bon ami à moi qui est coach, qui s'appelle Jawen, qui est coach sportif aussi. Et je savais qu'il faisait de l'haltérophilie, qu'il coachait en haltérophilie. Il avait coaché et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux me coacher? Il m'a dit ok. Et c'est là que j'ai commencé. Après, j'en ai un autre. J'ai eu Mathias en tant que coach, qui coach là où je vais. Et de là, je me suis mis en club et on a monté un club, la salle où je suis. Puis j'ai eu des compétitions cette année. Et puis ça m'a fait un bien fou. Je me suis jamais autant senti bien dans un sport avec une discipline, de la technique, l'ego trip de je vais mettre du plus lourd pour faire un putain de score. Tu l'oublies. C'est si t'as pas de technique, tu peux pas mettre lourd. Si t'as pas ta bonne technique, tu feras de la merde, tu seras mal. Donc du coup, t'es obligé de revenir un peu en arrière. C'est très frustrant. C'est un sport qui est très frustrant. On dit mais je comprends pas. L'autre fois, j'ai réussi à soulever cette barre. Là, j'arrive plus. Mm. Ben peut-être parce que t'es fatigué, parce que donc il y a une connaissance de son corps qui est et de ses émotions surtout.
Oui, j'allais te dire.
Ses émotions là aujourd'hui, je suis capable. Je suis capable d'aller soulever cette barre de 100 kilos, la foutre sur mes épaules et la mettre au-dessus de ma tête. T'arrives devant la barre, incapable de la soulever. Incapable de la monter sur les épaules et puis encore moins de l'acheter. Et du coup, bah, tu dis, bon, bah, tant pis, je vais descendre la charge. Et donc, du coup, ton ego, tu le mets un petit peu de côté, quoi. Tu dis, bon,
un peu d'humilité, quoi.
Ouais, voilà. Mmh. Et à ce moment-là, je sais que c'est un sport que je continuerai à faire. Alors, peut-être pas en compétition parce que il y a beaucoup de jeunes là où je suis un des plus vieux, et avec mon genou qui est un peu moisi, j'arrive quand même à faire des choses, et je suis très fier de moi. Mais même cette phrase-là, elle est toute nouvelle. Je suis fier...
T'arrivais pas à le dire avant.
Même quand on me le disait, ça sonnait faux. Pour moi, c'était pas... Et là, maintenant, j'arrive à le dire à mon fils, hein. Je lui dis toutes les semaines que je suis fier de lui, même s'il fait une connerie, je suis fier de lui, même s'il fait, voilà. Je lui dis que je l'aime, voilà, mais moi, j'ai du mal à, et là, quand je repense à le parcours que j'ai eu, comment je me démène pour y aller. Enfin, je me démène pas, parce que se démener, ça veut dire que je me prends la tête à y aller. Quand je commence à me prendre la tête, j'y vais pas. Je vais pas envie. Je sais que je vais faire de la merde, et puis, et j'ai pas envie d'être dans cette émotion de, je suis déçu, je suis en colère. Non, si j'ai pas envie, j'y vais pas. Je fais autre chose. Et donc, du coup, c'est un sport qui, pour l'instant, c'est mon sport. J'essaie de pas trop aller dans la dérive de que ça. J'essaie de me trouver d'autres choses où je peux me sentir bien. Écouter des podcasts de Fab de Mimi.
Et tu vois, tout à l'heure, tu me disais, ma psy... En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était mon ancien moi. J'ai mon nouveau moi, j'ai mon ancien moi.
C'est ça.
Qu'est-ce qui... T'as dans l'idée qu'il y a eu un déclic pour toi ou qu'il y a eu plusieurs déclics qui t'ont amené à être le nouveau toi?
J'ai... j'ai beaucoup... Alors, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que j'ai eu du mal pendant toutes ces années à être seul. À être... Pour te dire, il y a des fois où... Alors, ça m'arrive encore, mais... Après la séparation que j'ai eue, le déclic, ça a été que je me suis retrouvé tout seul dans un grand appartement.
C'est là que t'as commencé à aller voir ta thérapeute, c'est ça?
Non, non, ah, c'est...
Je croyais...
C'était justement à cette période alcoolisée.
Ok. Ça.
Là, là, cette période-là, où j'ai eu le déclic, parce qu'en fait, de la période où j'ai commencé à l'avoir, j'ai toujours trouvé des petites dérives, des échappatoires pour pas être en face de moi-même, quoi. Être sur mon reflet et me dire, mais écoute, là, Karl, trouve autre chose, parce que t'as une trentaine d'années, t'es cassé de partout. C'est bien de vouloir faire des choses pour oublier qui tu es, mais est-ce que t'as vraiment cherché, quoi? Et là, ces derniers temps, c'est depuis juillet, depuis la séparation, la séparation est très récente. J'ai beaucoup été seul. Je m'oblige à le faire. Parce que d'une, quand il y a trop de monde maintenant, dû à mon hypersensibilité, je ne supporte pas quand il y a beaucoup de monde. Il y a des moments où je décroche. Je suis plus là. Typique, j'ai voulu tester le truc. Alors, j'ai fait des expériences, hein, c'est une nouvelle chose. Hein. Comme si j'avais un super pouvoir et j'essayais, quoi. Un peu comme Spider-Man dans le premier film où il teste. Là, c'était soirée karaoké avec les gens de l'altéro. Ok. Moi qui n'ai pas du tout à l'aise en public, mais quand je parle, ça va en fait, quand je suis à l'aise. Et après, boire un verre avec eux. Là, il y a toutes les bribes du passé qui reviennent. Ah, ben ce bar-là, je suis déjà allé. Ah, ben j'ai déjà fait ça ici. Et j'ai déjà pensé, hein, bon, ben je suis pas à l'aise, vas-y, je me resserre un verre. Mais en fait, non, je peux pas. Et en fait, à cogiter. C'est juste, voilà. Dans ce bar-là, j'y avais plein de monde. Et le bruit, le monde... Si j'avais été quelques années dans le passé, j'aurais payé ma tournée. Pour me dire, ah ben Karl, c'est un mec cool, il paye sa tournée. Alors que ça me fait chier sortir ma carte bleue pour payer des pintes aux gens, quoi. c'est con, hein. Mais... Et puis, j'ai une amie qui est à peu près dans le même mood, elle et moi, dans le club. Elle m'envoie un message, parce qu'elle me voyait, on était une tablée d'une quinzaine, et puis elle m'envoie un message, elle me disait, ça va? Et je lui réponds par message, non, je suis en train de décrocher, là. Elle me dit, je vois bien, t'es plus là. Je dis, ouais, j'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer. Et je suis rentré. J'ai dit, bon, bah écoutez, moi je vais y aller, et puis à ce moment-là, ça a lancé la dynamique où tout le monde allait rentrer chez soi. Et là, je me suis dit, là, j'ai un problème avec les foules. Alors, je peux te dire que le métro parisien... C'est Disneyland pour moi,
c'est une expérience.
Ah ouais, c'est. Je vais prendre un Doliprane en repartant. Mais voilà, c'est.
Bah, tu peux aussi te recentrer sur toi, hein, tu vois, à ce moment-là. T'es pas obligé de te laisser submerger la gueule par.
C'est ça. J'arrive à tourner ça sur le ton de l'humour. En me disant, voilà, quand j'ai vu cette vieille dame qui est en train d'insulter la gonzesse en vélo, j'ai fait waouh, même les vieilles dames sont dangereuses à Paris. Du coup, j'ai changé de trottoir.
Les gens, d'une manière générale, sont plus intenses à Paris.
Ouais.
Je crois qu'on peut définir comme ça, c'est-à-dire que c'est plus intense.
Tu le ressens. tu le ressens. Je l'ai ressenti quand j'ai dépassé Le Mans.
Ok.
Voilà. Il y a une foulée de personnes qui est entrée dans le train et ça m'a angoissé. En plus, j'étais côté... Et dans le bar, c'était pareil.
Les gens qui font des allers-retours, qui vivent, vivent à l'extérieur de...
Et tu sens qu'ils y vont pour un truc qui fait chier, le travail. Ils y vont en marchant vite. Je veux dire, leur podomètre, il doit marcher à balle, quoi. Et donc, voilà, j'ai découvert que dans cette chose-là, c'est que la foule m'angoisse et tu rajoutes le bruit, les lumières, et je décroche. Et là, je peux plus. Là, je suis obligé de rentrer et de m'enfermer. Et là, j'ai découvert que, ben, j'aime bien être tout seul, des fois. J'aime bien être dans ma bulle. En fait, c'est ça. C'est ce que j'avais expliqué à la psy, c'est que les gens, ils ont une bulle et la mienne, elle est instable. C'est que l'image, c'est j'ai une bulle et j'essaie de la tenir, mais des fois, elle explose à chaque fois.
Et qu'est-ce que tu fais quand elle explose, alors?
Mais j'essaye de trouver un échappatoire. C'est que le seul endroit où je me sens à l'aise, où je me sens bien, c'est à la maison. C'est mon cocon, quoi. Donc, souvent, j'ai refusé de sortir, de m'intégrer un peu aux gens. Les gens m'incitaient, et puis plus tu insistes, moins j'ai envie. Et du coup, je restais chez moi, et à ce moment-là, j'avais ce bien-être de « je fais ce que je veux ». J'ai envie de regarder la télé, j'ai envie de jouer à la console, jouer à la console. Si j'ai envie de manger, si j'ai envie d'aller dormir... Et du coup, au fur et à mesure de ces mois-là, j'ai découvert que je pouvais être tout seul. J'ai besoin de me recentrer sur moi-même pour savoir qui je suis. Et ça, par le biais de ma thérapeute, je l'ai découvert. J'ai rencontré une personne à qui je tiens, qui m'a un peu fait découvrir tes podcasts. Pas un peu du tout, m'a fait découvrir. Elle m'a dit, tiens, tu devrais écouter ça, je pense que ça te ferait du bien, la masculinité...
Merci beaucoup pour de faire le taf de recommandation auprès des mecs.
Ouais, c'est ça. Et au contraire, je peux être un homme, je peux être un mec qui pleure. Je peux être un mec qui est pas bien, qui a envie de dire, bah non, je me sens pas bien, parce que là, émotionnellement parlant, bah, y a trop de charge mentale, tu vois. J'ai été trop bercé par le côté mec de quartier, faut se bagarrer. J'ai des frères, donc c'était pas la baston, mais ce côté où je suis dans la plage, je suis un mec, le mec il fait ça, il fait ci, il est cet archétype du bonhomme quoi. Alors que enfin derrière chaque petit bonhomme, enfin un grand bonhomme, il y a un petit bonhomme quoi.
Petit garçon qui a besoin d'amour. Hein.
C'est ça. Et moi, j'ai trop délaissé ce petit garçon de 5 ans qui a besoin d'extérioriser. Donc, maintenant, je pleure à tout bout de champ. Je suis sponsor par Kleenex. Et non, j'ai surtout...
C'est super, non?
Bah, ça me fait du bien. Il y a des moments où, même devant mon fils, au début, je me cachais. Je voulais pas qu'il me voie. Et en fait, j'arrive à... Souvent, on regarde des films, lui, moi, genre, on est très fan. Moi, je suis très fan de comics, de Marvel, d'anime, de manga, tout ça. De jeux vidéo, je suis un très geek et pop culture. Et mon fils, il suit ma lignée. Avec grande fierté que j'ai, il suit ça. Et des fois, on regarde des films, puis il y a des moments un peu émouvants. Il y a quelques temps de ça, j'aurais retenu la chose. Et là, je sens la petite boule qui monte au niveau de la gorge. Et puis, mon fils qui regarde, il entend. Puis il se fait un petit malin plaisir. Papa, tu pleures? Non. Et puis il se retourne et me regarde. Et puis du coup, on explose de rire. Il me dit, ouais, mais pourquoi? Parce que c'est triste, tu vois. C'est triste, il y a de l'émotion. Et je dis, mais Robin, de toute façon, t'as les larmes aux yeux. Il me dit, ouais, mais je pleure pas. Je dis, mais t'as le droit. Et ça me fait du bien de dire à mon fils que pleurer, c'est une des meilleures choses qu'on ait à faire. J'ai beaucoup pleuré. Et je continuerai à pleurer, parce que...
Tu te rends compte que quand tu dis ça à ton fils, t'es aussi en train de parler au petit Carl ou pas?
Bien sûr.
C'est incroyable.
J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on a... Alors, je suis très, très à fond sur mon téléphone et tout ce qui est Instagrammable, je le regarde. Je suis un adepte du scrolling. Et merci l'algorithme qui me fait tomber sur des trucs un peu... J'ai beaucoup de gens, des podcasteurs, je sais pas si ça se dit, au Canada, au Québec, qui sont beaucoup sur ces émotions-là. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils sont très reliés aussi dans l'empathie, tout ce qui est carpe diem, au niveau des soins, le relationnel avec les personnes âgées. Et je m'y retrouve. Et en fait, c'est vrai que beaucoup de gens disent, voilà, on a tous cet enfant qu'on a en nous, au lieu d'aller enfermer et dire non, fais pas ça, c'est pas bien, accepte-le. Et de pleurer, ouais, c'est pas un échappatoire, c'est être humain, quoi. Tu vois, les dernières fois où je suis allé à chaudes larmes, c'est dernière compétition que j'ai faite, compétition à venir en haltéro. J'y allais en mode stressé, mais pas bien. Alors quand je suis stressé, pas bien, ça se voit sur ma gueule tout de suite. Hein. J'ai pas de sourire, je dis rien, je suis dans mon truc et il n'y a pas un mot qui sort. Et au fur et à mesure de cette compétition-là, mon coach il me dit ça va, je fais bah pas trop là. Il me dit bah détends-toi. Je lui dis on verra quand je commencerai à m'échauffer. Et une fois que j'ai posé, tu vois comme quoi c'est bénéfique, c'est un limite thérapeutique comme sport, parce que une fois que j'ai commencé à m'échauffer, à prendre à prendre ma barre. Et je me suis senti bien, j'ai eu un sourire. J'étais en train de rigoler, j'étais en train de faire mes trucs. Et j'étais fier de moi parce que je savais que j'étais en train de m'amuser. Et tant que je m'amuse, tant que ça part d'un sentiment où j'ai un bien-être derrière, je sais que je vais y arriver. Donc cette compétition se fait, je monte mes barres, mes échauffements, tout ça. Et je fais mes passages. Et puis, il y avait une petite bagarre que j'avais avec un collègue de l'altéro qui était « Tu fais tant, ben moi je vais faire ça. Et toi, tu fais ça. Ben » Du coup, c'est très, très masculin, très j'aurais celui-là qui a la plus grosse, quoi. Et puis sur la dernière barre, je dis « Vas-y. » J'ai dit à mon coach, il me dit « On met combien ?» J'étais passé d'une barre à 100, 106. Et je dis à mon coach « Vas-y, on s'en fout, vas-y, mets 110 kilos. » Et il me dit « T'es sûr ?» Je dis « Ouais, mais de toute façon, je l'ai, je le sais que je l'ai. » Et j'y suis allé, je l'ai eu. Et la pression du stress, de la joie, d'être arrivé là après des tas d'années d'entraînement. Parce que pendant une année, je me suis entraîné, j'ai pas fait de compétition parce que je travaille un week-end sur deux. Donc c'est compliqué d'avoir des hobbies et un sport. Donc pendant un an, j'ai pas fait de compétition. Et donc d'arriver là, de finir premier à cette compétition, enfin, on m'a dit que j'étais premier. Bah, moi, j'ai pris le trophée, hein.
Bah oui.
Mais même sans être premier, d'être content d'avoir fini sur ça et de me dire, ça y est, en fait, ça paye, quoi. Et je suis sorti du plateau d'Altero, je suis sorti du plateau, j'étais derrière, je me suis écroulé. Mais voilà, même là, en en parlant, je suis plein d'émotions parce que j'ai vraiment craqué comme quand la France gagne la Coupe du Monde 98, quoi. Pour moi, c'était ma petite Coupe du Monde 98, quoi. Et j'ai ma pote Maud, que je connais depuis pas mal d'années, qui vient me voir, qui me prend dans ses bras, elle me dit « Putain, c'est trop cool, quoi !» Je dis « Ouais, enfin, ça paye, quoi. » Tu vois, regarde. Je le vis.
Tu le revis, là.
Je le revis.
T'es dedans.
Et puis les gens viennent me dire tout de suite, tu vois, comme quoi les gens sont pas forcément à l'aise avec les émotions. Mais qu'est-ce qu'il y a pour pas que.
Oui.
Je sais rien. Je suis trop bien. Ouais. Je suis trop bien. Là, j'évacue. Et d'arriver avec les gens, on dit bah, bien joué, bravo. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les compliments. Ça me gêne parce que je sais pas comment réagir. C'est comme les cadeaux de Noël. Tu m'offres un cadeau, je m'écoute. Voilà. C'est là depuis ces derniers mois, je réapprends à connaître mes émotions.
Tu sais, ce que tu peux faire, c'est apprendre à recevoir.
Oui, bah ça. Oui.
On parlait de se pénétrer là, tu vois, d'apprendre à se laisser pénétrer. Mais en fait, le truc après et tu vois, c'est un truc sur lequel je bosse depuis un an à peu près, c'est d'apprendre à recevoir,
ouais.
Mais à recevoir vraiment. Et bravo.
Merci.
Reçois-le vraiment. Bon, bravo.
Merci, Fab. Je le reçois.
Je t'ai vu l'esquiver.
Choc. Un petit esquive. Merci, Fab.
T'as fait un boulot incroyable.
Je suis fier de moi. Et là, je le dis.
Oh là là. Bravo.
Je le dis avec émotion, ouais.
Ouais.
Parce que c'est pas forcément des mots que j'ai déjà entendus.
Bien, ouais, Jean. Franchement, tu peux être fier de toi.
Mais oui, mais je le suis. Et puis je continuerai parce que je vais donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. Et même si c'est bon ou pas bon, je...
Et puis c'est un cadeau incroyable que tu fais à ton fils.
Ouais,
tu te rends compte?
Ouais, ça me fait du bien. C'est un peu aussi pour lui que je le fais. Parce que toutes ces fois où je me suis mis en colère parce que j'étais pas bien et que j'arrivais pas à extérioriser, c'est lui qui faisait éponge, quoi. Ces derniers temps, j'essaye de lui expliquer pourquoi je suis pas bien, pourquoi je suis en train de pleurer, pourquoi je suis en colère. Et ça passe beaucoup mieux, en fait. Et puis je suis fier du travail que je fais parce que...
Tu peux.
Parce que bah, j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même, et puis surtout savoir qui je suis. Là, je suis Karl, aide-soignant haltérophile, qui pleure à tout bout de champ, et qui l'accepte. Pour moi, c'est ça, un vrai mec. C'est d'accepter sa part de masculinité, de pas prendre en compte ce que les gens disent, et de vivre pour soi, quoi. Tu vois, il y a des choses que, tu vois, habituellement, chose nouvelle que je fais, c'est que je détache mes cheveux au travail. Parce que je sais qu'ils sont beaux. Et, Et pas, les gens vont dire, ouais, c'est pour se la péter. Non. Je vois pas pourquoi je le cacherais.
Bah oui.
J'ai une femme détachée ses cheveux quand elle se promène parce qu'ils sont beaux. Moi, ouais, les miens sont beaux.
Ah oui, t'as une chevelure de feu. Let's go.
Elle s'est pas détachée encore. Mais du coup, là, c'est voilà. Pour moi, c'est ça l'histoire.
T'as vu Queer Eye?
Hein?
T'as vu Queer Eye?
Non.
Mmh. Si t'as Netflix ou pas?
Ouais.
Si t'as Netflix, tu regardes Queer Eye.
Queer Eye.
Saison 1. Premier épisode, tu regardes et puis tu m'en diras des nouvelles.
Okay.
Si vous n'avez jamais regardé, les gars qui écoutaient là, allez regarder Queer Eye, moi ça m'a mis une claque. C'est 5 mecs gays
okay.
qui viennent prendre soin d'un mec. Alors dans la première saison, c'est que des mecs hétéros. Après, ils ouvrent un peu, il y a des femmes, etc. Et ils ont chacun une spécialité. Il y en a un qui va s'occuper de la déco, de l'environnement, de la maison, de la personne, okay. etc. Tu vois, il y en a un qui va s'occuper des fringues, l'autre qui va s'occuper du visage, les cosmétiques, les cheveux, machin. T'en as un qui va s'occuper de la bouffe et t'en as un qui va venir s'occuper plutôt de l'aspect santé mentale. Quoi.
Ok, d'accord.
Et ils sont 5 et en fait, c'est incroyable. Et tu vois, tu parlais de tes cheveux, etc. Notamment, ils font tout un truc sur... Il y a des mecs qui ont des cheveux incroyables et qui les cachent ou qui les... Tu vois, qui les tordent, qui prennent pas soin, etc. Et il y a aussi ce travail-là, quoi, tu vois. Et c'est trop cool. Enfin, vraiment, si t'as l'occasion de regarder...
Ouais, carrément.
Ça
ouais.
devrait te mettre une bonne clacasse, normalement. C'est là, vu, là, t'as l'air mûr.
T'es bien. T'es à point, mon gars. C'est surtout que je le fais parce que... Je veux prendre soin de moi parce que je l'ai trop, je l'ai pas assez fait. J'ai abandonné un peu ce côté où prendre soin de soi, s'acheter des vêtements, s'habiller bien. Il y a que là, habituellement, je suis toujours en short, t-shirt, floqué, manga, comics et. Parce que c'est le plus simple, en fait, pour moi. Et là, je prends le temps. Ce matin, je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je
vais mettre? Tu t'es fait beau pour moi, c'est simple.
C'est ça. J'ai pris ma plus belle chemise achetée sur Vinted. Et je redécouvre des choses, en fait, que j'aurais dit, oh non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas moi. En fait, depuis quelques temps, je fais l'inverse de ce que j'aurais fait. C'est, j'ai la possibilité d'aller faire un podcast. Ouais, attends, non, c'est chaud quand même, faut aller sur Paris et tout. Bon, ben, je suis là. Hein.
Bravo.
Et que ça. Voilà, c'est. On m'a dit, peut-être que tu devrais faire ça à tes cheveux. Là, je reparle tout le temps de la même personne. J'ai une personne qui m'a un peu. Je sais même pas trop si j'ai le droit de parler d'elle, mais après.
Qui t'a ouvert, en tout cas.
C'est ça.
Qui t'a ouvert à ça, quoi.
Qui m'a ouvert aux joies de l'émotion, de prendre soin. Cette phrase, c'est « Si tu peux pas prendre soin de toi, tu pourras prendre soin de personne.
»
Et c'est clair, parce qu'en fait, c'est mon taf, en ce moment. Et puis même sur mon travail, le fait d'avoir ce côté émotionnel qui est revenu. Parce qu'il était là, hein. Je suis sûr qu'il était là. Il a toujours été là.
Tu avais mis une bonne chape de plomb dessus.
C'est ça. Et puis, j'ai rajouté un bâtiment par-dessus. Et puis, et du coup, ouais, il se passe des choses à mon travail dans cet EHPAD qui est très bien. Les gens sont adorables et j'ai une équipe top. Mais ça reste un côté où c'est tout l'inverse de mon côté sportif. C'est que là où c'est discipline et faut que ça soit carré et dur, c'est faut écouter. Faut observer, faut être doux, faut être attentionné, faut... penser à soi, enfin penser aux autres, mais en même temps se dire, bon, là ça devient trop émotionnel. Là, ces derniers temps, alors je sais pas si on a encore le temps de parler de ça, mais c'est une chose qui a été très percutante sur moi ces derniers temps, c'est que il y a une semaine de ça, on a eu le décès d'une personne, Marguerite qui était âgée d'une 90 ans, quoi, qui a eu un zona, qui est une maladie de peau avec des états cutanés pas jojo, quoi. Et pour nous, ça va. Ça peut être... Mais pour une personne de 90 ans, c'est dangereux. Donc, la dangeritude de la chose, c'est la mort. Il n'y a pas plus d'eau. On revient de... Donc, je travaille le week-end, je prends le relais de ma collègue de nuit qui me dit tout s'est bien passé. Okay. Je prends le relais, je prépare mes médicaments, tout ça. Et on fait le tour des... Mes collègues vont dans les étages, moi je fais un tour de chaque étage. Et chaque collègue me dit, bah, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu plein de merde et tout. Bon. Les aléas de, des joies de... Mmh. Les joies des protections des résidents. Il y a toujours des petits cadeaux. Et à ce moment-là, on arrive, j'ai ma collègue qui m'appelle, il me dit, Carl, faut que tu viennes là. Marguerite, elle est morte. Mes textos comme ça. Et là, je fige, je bug. J'ai bah, ok, j'arrive. Donc, je descends 4 étages en sprint. J'arrive dans la chambre, puis je la retrouve, on la retrouve dans son lit, sur le ventre, toute bleue. Mm. J'étais là, bah déjà un corps humain bleu, c'est pas normal. À moins d'être un schtroumpf, mais... Donc du coup, cette dame, on la retrouve sur le ventre, allongée. Déjà sur le ventre, c'est pas normal. Les bras et les jambes dans les barrières, toute bleue, le visage est écrasé dans son lit, et là, je bug. J'ai vu des décès dans ma vie, j'en ai eu plusieurs. Je me suis occupé de soins, on appelle ça des soins mortuaires, pour préparer avant que la famille arrive. Mais là, j'ai bugué. Alors, je pense que le fait d'avoir un état émotionnel qui est plus, développé, m'a fait que, à ce moment-là, j'étais submergé par des émotions. J'étais triste, j'étais en colère, il y a eu plein de choses qui sont passées. Et en même temps, il fallait que je fasse mon taf, qui était de m'occuper de cette dame-là. Mmh. Et cette dame-là était sur le ventre, les jambes dans les barrières, la jambe avait doublé de volume, fallait pousser la jambe dans la barrière qui avait...
Pas cool.
Pas cool. Et je la vois remettre, je me vois la remettre sur le dos avec ma collègue et un visage, mais... Bah, horrible, quoi. Enfin... J'ai parlé des détails, quoi, mais... Donc, on s'occupe de la dame. Et puis, la journée passe. Donc, moi, je reste choqué. Cette odeur est... de cette personne m'est restée dans le nez tout le week-end. J'ai pas dormi le samedi. Et le dimanche, j'ai été remonté comme un coucou. J'étais remonté parce que je me dis, putain, on n'a pas fait notre taf, quoi. On a été mauvais. Et en fait, en parlant à ma psy à ce moment-là, parce que je l'ai vu, je la voyais... la semaine d'après, je lui dis, j'ai pas eu l'impression d'avoir été un bon soignant, d'avoir accompagné cette dame, et surtout, j'ai pas eu l'impression d'être respectueux. C'est que on savait qu'elle était pas bien, je savais que... Alors, quand je dis on, c'est toute l'équipe, hein, et je mets pas en cause, on aurait peut-être pas pu éviter la chose, mais on aurait pu faire en sorte d'accompagner ça mieux. Et je sais qu'il y a quelques temps de ça, j'aurais dit, bon bah, un décès est un décès, c'est pas ma faute, machin. Et là, maintenant, je me sens pas investi d'une mission, mais je me sens... J'ai envie que ça se reproduise plus. J'ai pas envie qu'une autre personne que moi ou d'autres revive ça, genre de l'injustice, et puis surtout vis-à-vis de la personne, en fait. Et ça a été dur, en fait, de voir qu'on n'a pas été capable, et émotionnellement parlant, ça m'a impacté pendant une semaine, et encore là, maintenant, ça me... J'ai envie d'entreprendre des choses et j'ai envie qu'on fasse ça. Et j'ai envie qu'on aide. Non, j'ai envie qu'on fasse mieux notre travail, c'est ça. Et je sais que moi, je suis un bon soignant. Je sais que ça fait 10 ans que je fais ça. Je sais qu'il y a des choses que j'aime pas faire, mais je sais que je peux être bon. Et sur ça, j'en ai parlé à mes collègues. Et toujours avec cette même émotion que je suis triste et en colère. Et j'ai des collègues qui m'ont dit « mais sois pas triste ». Enfin. Si, ça fait partie de moi. Enfin, je veux dire, je veux pas skip le fait d'être triste parce que c'est toi que ça gêne. Non, j'ai envie d'en pleurer, en fait. Et ça m'a fait du bien. Et même d'en parler là, parce que moi, je trouve que c'est rendre hommage à cette personne-là qui était très, très vieille, très, très gentille. Enfin, et puis, je me dis, c'est aussi le respect qu'on a pour nos anciens, qu'est, ils ont eu une vie plus que compliquée, avec une guerre, avec une façon de voir le monde qui était très différente de la nôtre. Nous, on est des assistés, hein. On est assistés pour tout. Hein. Si j'avais pas eu mon téléphone, j'aurais mis au moins 3 jours à venir ici. Hein. Mais voilà, alors que moi, j'ai encore mon père en train de dérouler la carte dans la voiture. Quoi. Et là j'ai envie qu'on garde ce respect vis-à-vis de nos anciens. Et en tant que soignant, j'ai pas envie de... Ben, j'ai pas envie de skip mes émotions en disant ouais, t'es trop dans l'affect là, prends du recul. Ben non, c'est mon affect, je l'accepte, je l'ai, ouais. Je le laisse parler, et on fait quelque chose avec, quoi.
Ce qui t'empêchera pas d'être un bon soignant, et ce qui t'empêchera pas de pouvoir rester objectif, juste.
C'est ça. Et si c'est un peu le problème des gens en globalité dans le domaine médical, c'est que on leur demande de faire du travail et chargé en émotion. On leur demande plus. Et au bout d'un moment, ils explosent. Enfin, les burn-out se comptent par milliers en semaine. Moi, le premier, si j'ai pu autant faire un reboot de ma vie, c'est qu'au mois de septembre, j'ai appelé mon travail, je leur ai dit, je viendrai pas, je peux plus. Ah bon, toi, tu peux plus quoi? Je peux plus, en fait. Je peux pas. J'ai du mal à m'occuper de moi, je peux pas m'occuper des gens. J'arriverai pas. Et c'est d'abord moi avant vous. Et ça, il y a quelques années de ça, j'aurais dit, tant pis, tu serres les dents, tu serres les fesses, tu serres tout ce que t'as, tu vas au travail. C'est ton rôle. Et en fait, moi, mon rôle, il est plus de souffrir pour aider les autres.
Ouais.
C'est si moi, je vais pas bien, je peux pas aider.
Good job, Carl.
Thank you.
Franchement, trop bien. Ouais. Merci beaucoup.
Ben, merci, Fab.
D'être venu te raconter, d'être venu partager ton émotion, d'être venu pleurer dans ce micro, c'est super.
J'ai pleuré?
Non, pas du tout.
Ah ouais?
Non, parce que t'es un bonhomme. Souviens-toi.
Non.
Et
écoute,
les bonhommes, ça pleure pas.
Non, c'est pas vrai. Dis pas ça, ça m'énerve.
Merci beaucoup.
Merci, Fab.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.